13. Il se releva lentement, conscient de s'être entaillé la paume sur un fragment de coquillage. Il regarda bêtement le sang suivre sa ligne de vie, puis vit sur sa droite un autre homme se redresser avec une égale lenteur. Il eut un mouvement de recul, son vertige soudain supplanté par l'âpre dard de la terreur. Ce type était mort et ne le savait pas. Un visage émacié, la peau tendue sur les os comme des bandelettes dont on aurait si étroitement enveloppé une structure métallique que le tissu menaçait de se déchirer aux angles. Peau livide, hormis les touches de rouge que la fièvre avait plaquées haut sur les pommettes, de part et d'autre du cou, sous la ligne des mâchoires et entre les deux yeux. Marque isolée, circulaire, pareille à l'enfantine imitation de quelques symboles d'une caste hindoue. Mais un regard qui niait la mort, bleu, solide, équilibré, plein d'une extraordinaire et opiniâtre vitalité. Il était vêtu de sombre, d'une sorte de cotonnade artisanale. Une chemise aux manches retroussées dont le noir achevait de tourner au gris et un pantalon de type jean. Deux ceintures d'armes s'y entrecroisaient, suspendues à ses hanches, mais leurs alvéoles étaient presque toutes vides. Ce qui dépassait des étuis ressemblait à des 45, mais d'un modèle d'une incroyable antiquité. Le bois lisse de leurs plaquettes de crosse semblait suinter ses propres luisances. Eddie, qui ne se savait nulle intention de parler, ni rien à dire, s'entendit néanmoins demander « Vous êtes un fantôme ?»« Non, pas encore, » croassa l'homme au pistolet. « Allez, vite, l'herbe du diable, la cocaïne, enlève ta chemise. »«
Votre bras ?»
Eddie venait de découvrir sur le bras droit de cet homme lequel lui semblait appartenir à cette extravagante espèce de pistolero qui ne se rencontre que dans les western spaghetti, un réseau de sinistres lignes écarlates. Il en connaissait le sens. Elles étaient le symptôme d'un empoisonnement du sang. Elles disaient que le diable ne se contentait pas de vous courir au cul, qu'il remontait déjà les égouts vers vos pompes centrales.
« Ne t'occupe pas de mon putain de bras !» claqua la voix du spectral personnage.
« Retire ta chemise et débarrasse-toi de ce qu'il y a dessous. » Eddie entendait les vagues, avait dans les oreilles le sifflement esselé d'un vent ignorant tout obstacle. Il voyait ce fou à l'agonie et rien d'autre autour qu'un décor désolé. Tout en continuant de percevoir derrière lui le murmure des passagers quittant l'appareil, tandis que les coups sourds, réguliers, se fracassaient toujours contre la porte des toilettes.
« Monsieur Dean !»
Cette voix, elle vient d'un autre monde, se dit-il, n'en doutant pas vraiment, tentant seulement de se l'enfoncer dans le crâne comme si c'était un clou à planter dans une bille d'acajou.
« Il faut absolument que vous... »
« Laisse tomber !»« Tu verras ça plus tard, » grinça le pistolero. « Tu ne comprends donc pas qu'ici je suis obligé de parler, que ça fait mal, et puis qu'il n'y a pas de temps à perdre, espèce de crétin !» Il y avait des gens qu'Eddie aurait tué sur place pour l'avoir insulté de cette manière. Mais il avait dans l'idée que tuer cet homme présentait quelques difficultés, même si son état semblait appeler cet acte comme un service à lui rendre. Il ne lisait pourtant que sincérité dans ses yeux bleus, toute question se dissolvant, s'annulant sous leur regard intense. Sa première impulsion avait été de l'arracher comme Clark Kent, Superman, quand Lois Lane est attaché en travers des rails ou quelque chose de la même veine. Mais ce genre d'agissement ne valait rien dans la vie de tous les jours. On se retrouvait avec des boutons dont tôt ou tard il fallait expliquer l'absence. Il les fit donc glisser un par un hors des boutonnières alors que dans son dos, le tambourinement s'obstinait. Puis, il la retira, révélant les bandes de sparadrap qui barraient son torse et lui donnait l'aspect d'un type qu'on soigne pour des côtes salement fracturées. Il jeta un coup d'œil derrière lui et vit une porte béante, dont le battant avait creusé une forme en éventail dans le sable gris de la plage, quand quelqu'un, le mourant sans doute, l'avait poussé. Au-delà, il reconnaissait les toilettes de l'avion, le lavabo, la glace, et le visage qui s'y reflétait, son visage, ses cheveux noirs qui lui tombaient sur le front au-dessus de ses yeux noisettes. À l'arrière-plan, il voyait le pistolero,
la grève à l'infini et des oiseaux de mer qui piaillaient en se disputant Dieu sait quoi. Il palpa les épaisseurs de sparadrap, se demandant par où commencer, comment trouver un bout sur lequel tirer, se sentant alors envahi par une forme hébétée de désespoir. Ce que doit éprouver le cerf ou le lapin qui, traversant une route de campagne, est parvenu au beau milieu, ne tourne la tête que pour être cloué par l'éblouissement des phares qui se ruent sur lui. Enrouler la bande avait pris 20 minutes à William Wilson, l'homme dont Edgar Poe avait immortalisé le nom. Il allait s'en écouler 5, 7 au mieux, avant qu'il ne se décide à forcer la porte des toilettes. « Impossible de retirer cette saleté, » dit-il à l'homme qui chancelait en face de lui. « Je ne sais ni qui vous êtes, ni où je suis, mais je peux vous dire que ce sera bien trop long pour le temps dont nous disposons. » 14. Dire, le copilote, suggéra au commandant MacDonald de renoncer à tambouriner à la porte quand son supérieur, devant l'absence de réponse du 3A, entreprit d'exprimer ainsi sa frustration. « Où voulez-vous qu'il aille ? » demanda-t-il. « Que peut-il faire ? Sauter dans la cuvette et tirer la chasse, il est beaucoup trop gros. » « Mais s'il passe de là... » commença MacDonald. Dear, qui pour sa part se permettait un usage plus qu'occasionnel de la cocaïne, l'interrompit. « S'il en passe, c'est un bon paquet, il ne pourra pas s'en débarrasser comme ça. »« On n'a qu'à couper l'eau, » fit le commandant. « C'est déjà fait, » rétorqua le copilote qui à l'occasion se permettait également d'outrepasser ses fonctions. « Mais je ne crois pas que ça change grand-chose. On peut dissoudre ce qui va dans les cuves, mais il est impossible de faire que ça n'y soit pas. » Ils étaient agglutinés contre la porte des toilettes, nargués par l'éclat du mot occupé dans son petit rectangle, et chuchotaient presque. « Les types de la DEA vont vider la cuvette, prélever un échantillon, l'analyser, et le gras sera coincé. »« Il pourra soutenir qu'un autre est passé avant lui pour s'en débarrasser, » fit remarquer MacDonald, dont la voix se teintait de nervosité. Il n'avait pas envie d'épiloguer sur la situation. Il voulait y répondre, brûler d'agir, tout en restant intensément conscient que le troupeau de voyageurs n'avait pas encore évacué l'appareil et que bon nombre coulaient des regards plus que simplement curieux vers cet anormal congrès de l'équipage à proximité des toilettes. Pour sa part, le dit équipage était intensément conscient qu'une action, mettons par trop manifeste, risquait de réveiller le terroriste tapi de nos jours au fond de chaque passager. MacDonald savait que son navigateur et son mécanicien de bord étaient dans le vrai, que la cam avait de fortes chances de rester dans ses sacs en plastique marqués des empreintes du connard, mais il n'en sentait pas moins les sirènes d'alarme se déclencher en lui. Quelque chose clochait dans toute cette histoire. Quelque chose ne cessait de lui répéter « Vite, vite !» comme si le 3A était un joueur professionnel aux manches farci d'as et sur le point de les abattre. « En tout cas, il n'essaie pas de tirer la chasse, » intervint l'une des hôtesses, Suzy Douglas. « Même pas d'ouvrir les robinets du lavabo. On les entendrait pomper l'air s'il le faisait. J'entends bien quelque chose, mais... »« Vous pouvez descendre, » lui intima sèchement MacDonald, avant de reporter son regard sur Jane Downing. « Vous aussi. On va prendre les choses en main. » Alors que Jane, les joues en feu, s'apprêtait à obéir, Suzy dit tranquillement... C'est Jane qui l'a repéré, et puis c'est moi qui ai vu les grosseurs sous sa chemise. Aussi, allons-nous rester, je crois, commandant MacDonald. Si vous voulez nous coller un rapport pour insubordination, libre à vous, mais je tiens à vous rappeler le risque de saboter le travail de la DEA sur ce qui pourrait être un énorme coup de filet. Leurs yeux se verrouillèrent dans des gerbes d'étincelles. Ça doit être au moins le 70e voyage que je fais avec vous, Mac. « Reprit Suzy. Ce que j'en dis, c'est par amitié. » Le commandant la regarda encore un moment, puis hocha la tête. « Bon, vous pouvez rester, à condition de vous reculer l'une et l'autre. » Il se dressa sur la pointe des pieds pour regarder où en étaient les passagers. Les derniers franchissaient la séparation entre classe touriste et classe affaires. 2 minutes encore, 3 peut-être. Il reporta son attention sur l'entrée de la passerelle où un agent de la compagnie censé surveiller le département observait en fait l'étrange groupe qu'il formait près de la porte des WC. L'homme devait avoir senti un problème de quelque nature. Il avait sorti son talkie-walkie de l'étui et le tenait à la main. « Allez lui dire que je veux des types de la police des frontières, » glissa tranquillement MacDonald au navigateur. Armé, 3 ou 4, et tout de suite. Le navigateur se fraya un chemin dans la file, s'excusant d'un grand sourire, puis tranquillement parla à l'agent qui, portant le talkie-walkie à ses lèvres, parla tout aussi tranquillement dedans. MacDonald, qui de sa vie entière ne s'était jamais rien introduit dans l'organisme de plus fort que de l'aspirine, et encore, de loin en loin, se tourna vers Deer. Ses lèvres s'étaient pincées en une mince et livide cicatrice. « Dès qu'ils sont tous dehors, on enfonce cette putain de porte de chiottes, dit-il. Que les flics soient là ou non. Compris ?»« 5 sur 5, fit Deer. » Et il regarda le bout de la file atteindre enfin la première classe en piétinant. 15. « Prends mon couteau, dit le pistolero, là, dans ma bourse. » Il montra sur le sable un sac de cuir craquelé. Plus un paquetage qu'une bourse, le genre de truc qu'on s'attend à voir sur le sentier de grande randonnée des Appalaches, trimballé par des hippies se shootant aux fleurs et aux petits oiseaux, avec peut-être ça et là l'aide d'un pétard bien dosé. À la différence que celui-ci avait l'air vrai, pas un accessoire pour quelque fumeuse et narcissique image de soi. Un sac qui avait voyagé dur, dans le désespoir peut-être, sur des années et des années. Il le montra, mais pas du doigt. Il ne pouvait pas. Eddie s'aperçut que l'homme avait la main droite enroulée dans un chiffon sale, un lambeau de sa chemise. Il en manquait une partie. « Prends-le et taille dans la bande. Tâche de ne pas te couper. Faut que tu sois prudent, mais que tu fasses vite aussi. On n'a pas beaucoup de temps. »« Je sais, » dit Eddie. Il s'agenouilla. Rien de tout cela n'était réel. Voilà, elle était là, la réponse. Comme aurait dit le grand sage et éminent junkie Henry Dean, « Flip-flop, hippity-top, le maxi délire, l'éclat au pire, la vie est un songe, le monde un mensonge, mais donc un credence, ça plane, ça balance. » Rien de tout cela n'était réel. Il avait piqué du nez, tout simplement, voyageait avec un extraordinaire réalisme. Le mieux était de se coucher sur la monture, de se laisser porter par le courant. Sûr, des plus réalistes, ce trip. Il tendit la main vers la fermeture éclair, ou peut-être était-ce une bande velcro, quand il s'aperçut que des lanières de peau brute entrecroisées fermaient en fait la sacoche de l'homme. Certaines cassées avaient été soigneusement renouées, assez serrées pour continuer de passer dans les œillets. Il dégagea les lanières, élargit l'ouverture du sac et trouva ce qu'il cherchait sous un paquet vaguement humide, des balles emmailloté dans un autre morceau de chemise. Le manche seul du couteau eut de quoi lui couper le souffle. L'authentique nuance blanc-gris de l'argent massif y était gravée d'une complexe série de dessins qui accrochaient l'œil, le fascinait. Une douleur lui explosa dans l'oreille, vrilla son crâne de part en part, souleva momentanément dans son champ de vision une bouffée de brouillard rouge. Il s'effondra sur le sac entrouvert et heurta le sable alors que son regard remontait des bottes raccourcies de l'homme à ses traits livides. Non, il ne planait pas. Les yeux bleus qui le foudroyaient dans ce visage à l'agonie étaient pure vérité. « Tu t'extasieras plus tard, prisonnier, » dit le pistolero. « Pour l'heure, tu t'en sers, et c'est tout. » Eddie sentait son oreille palpiter et s'enfler. « Pourquoi vous m'appelez toujours comme ça ? Occupe-toi de la bande. S'il déboule dans ses latrines alors que t'es encore ici, j'ai bien l'impression que tu vas y rester un bout de temps, et sous peu en compagnie d'un cadavre. » Eddie tira le couteau de sa gaine. Il n'était pas simplement vieux, ni même ancien. Il remontait au déluge. Sa lame, affilée au point de disparaître, ou presque si on la regardait sous un certain angle, semblait être le temps fait métal. « Ouais, m'a l'air bien coupant, » dit-il, mais sa voix n'avait rien assuré. 16. Les derniers passagers abordaient la passerelle. Parmi eux se trouvait une vieille dame d'environ 70 étés, avec cette charmante expression perdue que seuls savent apparemment revêtir ceux qui, trop avancés en âge, prennent l'avion pour la première fois. Elle s'arrêta pour montrer ses billets à Jane.
« Je continue sur Montréal, » dit-elle. « Comment vais-je faire pour trouver mon avion et mes bagages? Dois-je passer la douane ici ou là-bas ?»«
Vous avez à l'entrée de la passerelle l'un de nos agents qui vous donnera toutes les informations nécessaires, madame. » Lui fut-il répondu.
« Je ne vois pas ce qui vous empêche de me les donner vous-même, » rétorqua-t-elle. « Cette passerelle, comme vous dites, est toujours pleine de monde. »
« Je vous en prie, madame, veuillez avancer, » fit le commandant MacDonald. « Nous avons un problème. »«
Bon, excusez-moi d'être encore en vie, » persifla la vieille dame. « J'ai dû rater le corbillard. »
Elle passa devant eux, le nez dressé, comme le museau d'un chien flairant un feu au loin, une main crispée sur la poignée de son espèce de cabas, l'autre sur la pochette où étaient rangés ses billets. Il en dépassait tant de talons de cartes d'embarquement qu'on était tenté de la croire venue de l'autre bout du monde en changeant d'avion à chaque escale.
« Voilà une cliente qui risque de ne jamais remonter à bord d'un long courrier de notre compagnie, » commenta Suzy.
Elle déciderait de voyager dans le slip de Superman coincé entre ses roubignoles que je n'en aurais rien à foutre, décréta MacDonald.
Ils sont tous sortis ? Jane bondit, survolant du regard les sièges de la classe affaires, puis passa la tête côté touriste. Tout était désert. Elle revint vers les autres et confirma que l'appareil était vide. MacDonald se tourna vers la passerelle. Il vit deux types en uniforme qui se frayaient un chemin dans la foule, s'excusant certes, mais sans un regard pour ceux qu'ils bousculaient. Leur dernière victime fut la vieille dame. Sa pochette lui échappa et les papiers volèrent et s'éparpillèrent alors qu'elle poursuivait les coupables de ses cris de corneille en colère.
« Parfait, » dit MacDonald. « Pas plus loin, les gars. »«
Mais, commandant, nous sommes des douaniers fédéraux. »«
Je sais, c'est moi qui vous ai appelé. »
« Je vous félicite d'être arrivé si vite. N'empêche que vous allez rester où vous êtes parce que c'est mon avion et que le mec qui s'est enfermé là-dedans fait encore partie de mon cheptel. Une fois qu'il aura mis le pied sur la passerelle, ça sera votre bestiau et vous pourrez l'accommoder à la sauce qui vous plaira. » Il se tourna vers Dear, hochant la tête. « Bon, je donne encore à ce salopard une dernière chance, puis on enfonce la porte. »«
Ça me va, » fit Dear.
Le commandant cogna de nouveau sur la porte du plat de la main et hurla.
« Sortez, l'ami ! Y en a marre de vous le demander !»
Pas de réponse.
« Ok, » conclut MacDonald.
« Allons-y. »
17. Eddie entendit comme de très loin la voix d'une vieille dame.
« Bon, excusez-moi d'être encore en vie !» disait-elle. « J'ai dû rater le corbillard !»
Il avait déjà cisaillé la moitié du bandage, mais cette voix le fit sursauter. Un filet de sang lui coulait maintenant sur le ventre.
« Merde !»«
Pas le temps de s'en occuper, » croassa le pistolero. « Termine. À moins que la vue du sang ne te rende malade. »«
Seulement quand c'est le mien, » cracha Eddie.
Le corset de sparadrap démarrait juste au-dessus de son ventre. Plus il montait, plus il devenait ardu de suivre la lame des yeux. Il tailla encore une dizaine de centimètres et faillit à nouveau se couper en entendant le
« Parfait,
pas plus loin, les gars !»
de MacDonald au douanier.
« Je peux terminer, qui sait, m'ouvrir la gorge, ou alors vous pouvez essayer, dit-il. Je vois pas ce que je fais. J'ai mon putain de menton qui me gêne. »
Le pistolero prit le couteau de la main gauche et sa main tremblait. Voir trembler cette lame au fil suicidaire rendit Eddie nerveux à l'extrême.
« Je ferai peut-être mieux.
Attends !» Le pistolero riva les yeux sur sa main. Eddie n'avait jamais nié l'existence de la télépathie, mais il n'y avait jamais vraiment cru non plus. Il n'en restait pas moins qu'il sentait quelque chose maintenant, quelque chose d'aussi réel, d'aussi palpable que la chaleur émanant d'un four. Quelques secondes après, il comprit. C'était la volonté de cet homme étrange qui se concentrait. Comment peut-il être mourant si je suis à ce point sensible à l'énergie qu'il dégage ? Le tremblement décrut. La main ne fit bientôt plus que frémir. Quelques secondes encore, 10 au plus, elle était ferme et solide comme un roc. « Bien, » dit le pistolero. Il s'approcha, leva le couteau. Eddie sentit se dégager une autre chaleur, moite et rance.
« Vous êtes gaucher ?»«
Non. »« Mon Dieu, » fit Eddie. Puis il tabla sur l'espoir de se sentir mieux s'il fermait un moment les yeux. L'âpre chuintement des deux plaques d'adhésif qui se séparaient lui emplit les oreilles. « Voilà, » dit le pistolero. Il fit un pas en arrière. « Maintenant, arrache ça en le lançant aussi loin que tu peux. Je m'occupe du dos. » Fini les petits coups polis à la porte des toilettes. C'étaient des points rageurs désormais. « La chiasse !» se dit Eddie. « Sûr qu'il n'y a plus un passager dans l'avion, alors adieu les bonnes manières. » « Sortez, l'ami, il y en a marre de vous le demander !»« Tire !» gronda le pistolero. Eddie prit un pan du bandage dans chaque main et tira de toutes ses forces. Ça fit mal, un mal de chien. « Arrête de chialer, ça pourrait être pire, imagine que t'aies du poil sur la poitrine comme Henry !» Il baissa les yeux et se découvrit en travers du sternum une zone à vif, large d'environ 20 cm. Juste au-dessus de son plexus solaire, il vit l'endroit où il s'était blessé. Le sang s'y accumulait dans une fossette avant de rouler jusqu'à son nombril. Quant au paquet de coke, il pendait à présent sous ses aisselles, tels des sacs de sel mal arrimés. « Ok !» fit la voix derrière la porte, s'adressant à quelqu'un d'autre. Ah, la suite se perdit dans l'inattendu raz-de-marée de souffrance qui lui déferla sur le dos quand le pistolero lui arracha sans ménagement le reste du corset. Il se mordit les lèvres pour ne pas hurler. « Remets ta chemise !» Le visage du pistolero, d'une pâleur qu'Eddie n'aurait jamais cru possible chez un homme encore en vie, avait carrément viré au gris des cendres froides. Le corset dans sa main gauche était devenu un enchevêtrement poisseux, méconnaissable, qu'il jeta. Eddie vit sourdre une auréole de sang frais au travers du bandage improvisé de la main droite. « Vite !» Un coup sourd retentit. Plus rien d'une demande, même exigeante, d'être admis dans les toilettes. Eddie se retourna pour y voir le signal lumineux clignoter, la porte vibrer. Ils allaient l'enfoncer. Il reprit sa chemise avec des doigts qui brusquement lui parurent trop gourds, trop gros. La manche gauche s'était retournée. Il tenta de la forcer, s'y coinça la main, et s'en dégagea si violemment qu'il ramena la manche à son état initial. Boum ! Une deuxième secousse ébranla la porte des WC.
« Dieu, comment peux-tu être si maladroit ? » gémit le pistolero, enfonçant à son tour le poing dans la manche récalcitrante.
Eddie eut la présence d'esprit d'en retenir le poignet à l'instant où son nouveau compagnon retirait son bras. Maintenant, ce dernier lui tenait sa chemise comme un majordome le manteau de son maître. Eddie l'enfila et ses mains cherchèrent le premier bouton du bas.
« Pas encore !»
aboya le pistolero. Il arracha un autre morceau de sa propre chemise déjà bien défigurée.
« Essuie-toi !»
Eddie fit de son mieux. La fossette où le couteau avait accroché la peau continuait à se remplir de sang. Une lame se devait d'être aiguisée, d'accord, mais il y avait des limites. Il jeta le tampon maculé de sang et boutonna sa chemise.
Boum !
Cette fois, la porte ne fit pas que trembler, elle se déforma dans son cadre. Un coup d'œil à travers la porte de la plage permit à Eddie d'assister à la chute du flacon de savon liquide posé près du lavabo et de le voir atterrir sur son sac. Il avait eu l'intention de fourrer vite fait dans son pantalon les pans de sa chemise, laquelle était désormais boutonnée. Et correctement, par miracle. Soudain, traversé par une meilleure idée, il dégrafa sa ceinture.
« Non, ça, on n'a pas le temps !»
Le pistolero, qui avait voulu crier, s'en découvrit incapable. « Encore un choc, cette porte va céder !»«
Je sais ce que je fais !» dit Eddie, espérant le savoir vraiment. Puis, alors qu'il refranchissait la porte entre les mondes, il baissa la fermeture éclair de sa braguette. Au bout d'un court instant d'atroce et radical désespoir, le pistolero l'y suivit, en chair et en os un moment, chair envahie de souffrance, pour ne plus devenir, à sa suite, qu'un cas détaché dans le cerveau d'Eddie.
18.
« Encore une fois !» dit MacDonald, et Deer hocha la tête.
Maintenant qu'il n'y avait plus un passager non seulement dans l'avion mais sur la passerelle, les types des douanes avaient sorti leurs armes.
« On y va !»
Les deux hommes s'élancèrent et sous l'unique choc de leur double masse, la porte diminuée d'un morceau qui resta un moment accroché par le loquet avant de tomber par terre, alla valdinguer contre la cloison. Révélant le sieur 3A sur le trône, le pantalon sur les genoux, les pans de sa chemise écossaise aux couleurs passées, dissimulant, mais à peine, son service 3 pièces.
Pas de doute, il me semble qu'on l'ait pris sur le fait, songea le commandant MacDonald, écœuré. Le seul problème est que ce fait sur lequel on l'a pris n'a, aux dernières nouvelles, rien d'illégal.
Il était soudain sensible aux élancements dans son épaule, là où elle avait heurté la porte par... combien ?
3 fois ?
4 ?
Putain de merde ! Beugla-t-il. Qu'est-ce que vous foutez là-dedans ?
Ma foi, je coulais un bronze, répondit le 3A. Mais si vous êtes aussi pressé que ça, je vais aller me torcher dans les toilettes de la...
Eh bien sûr, petit malin, vous ne nous avez pas entendu frapper à la porte, hein ?
Si, mais pas moyen de l'atteindre.
Le 3A tendit la main, et bien que ladite porte qui pendait de guingois contre la cloison fût désormais tout près, MacDonald comprit qu'il s'agissait d'une preuve.
Évidemment, j'aurais pu me lever, mais j'avais, comme qui dirait, entre les mains une situation délicate, à ceci près qu'elle n'était pas exactement entre mes mains, si vous me suivez, et que je n'avais pas non plus envie qu'elle y soit, si vous me suivez toujours.
Le 3A se fendit d'un sourire vaguement niais qui se voulait engageant et que le commandant jugea aussi crédible qu'une coupure de 9 $. À l'entendre, il ne s'était jamais trouvé personne pour lui expliquer le truc tout simple de se pencher en avant.
« Debout !» dit MacDonald.
« Avec plaisir. Pourriez-vous simplement prier les dames de s'écarter ?»
Nouveau sourire charmeur.
« Je sais que c'est complètement ringard par les temps qui courent, mais
c'est plus fort que moi. Je suis pudique. Le fait est qu'il y a de quoi. »
Il leva la main, le pouce et l'index séparés d'un 1,5 cm environ, et fit un clin d'œil à Jane Downing, qui piqua un phare et quitta l'avion, suivi de près par Suzy.
Pudique. Tu m'as l'air pudique, pensa le commandant. Tu me fais plutôt l'effet d'un chat qui vient de faire patte basse sur la crème.
Les deux hôtesses disparues, le 3A se leva et se reculota. Il allait tirer la chasse quand MacDonald lui expédia promptement la main loin du levier de la chasse d'eau, l'empoigna aux épaules et le fit pivoter face au couloir. Deer lui accrocha une main ferme entre les reins dans la ceinture du pantalon.
« Pas de privauté, je vous prie, » dit Eddie. Il avait la voix dégagée juste comme il fallait, du moins lui semblait-il.
Mais à l'intérieur, c'était la chute libre. Il sentait l'autre nettement, le sentait posté dans sa conscience, attentif sur le qui-vive, prêt à intervenir s'il déconnait. « Seigneur, ça ne pouvait être qu'un rêve.
Non. Pas un geste, » rétorqua Deer.
Le commandant MacDonald jeta un œil dans la cuvette.
« Pas de crotte, » dit-il, foudroyant aussitôt du regard le navigateur qui, sur le 3e terme de cette cascade de négations, s'était esclaffé sans le vouloir.
« Et vous savez comment c'est, » dit Eddie. « Il arrive qu'on ait du bol et que ce soit qu'une fausse alerte. »
J'en ai quand même lâché 2.
Maus,
je parle de la compagnie du gaz. Il y a 3 minutes, grattez une allumette là-dedans, vous aurez rôti à poids votre dinde de Noël, vous savez.
Ça doit être quelque chose que j'ai mangé avant de monter dans l'avion. Si vous voulez, on en a assez vu,
décréta MacDonald. Deer, qui tenait toujours Eddie par l'arrière de son jean, l'expédia jusqu'à la passerelle où les deux types des douanes le réceptionnèrent, chacun s'emparant d'un bras.
« Pas si vite !» hurla Eddie. « Je veux mon sac et ma veste !»«
Nous aussi, on tient à ce que tu aies tout.
le rassura l'un des douaniers dans une bouffée d'haleine en pestant les digestions difficiles et les trucs dont il se bourrait pour les combattre. « C'est qu'on s'y intéresse beaucoup à tes affaires. Maintenant, mon coco, en route !»
Quoiqu'il n'eût cessé de leur dire d'y aller mollo, de leur certifier qu'il était capable de marcher seul, Eddie ne devait pas évaluer rétrospectivement à plus de 3 ou 4 les fois où la pointe de ses chaussures avait touché le sol de la passerelle entre la porte du 727 et l'aéroport proprement dit. Là, il trouva 3 nouveaux chevaliers de la protection des frontières, flanqués d'une demi-douzaine de simples flics, les uns l'attendant, les autres retenant la petite foule qui, avec une curiosité avide et un certain malaise, le regarda se faire emmener.